nationale de la semaine de la finance solidaire du 7 au 14 novembre 2022 était organisée une table ronde sur les finances solidaires et actionnariat citoyen. Cela se passait à l'accorderie du Pays d'Iwa, rue Camille Buffardel, lundi 7. Sylvain Dumas, de la SCIC Village Vivant, était le modérateur de cette rencontre. Les intervenants représentatifs de structures telles la SCIC La Carline par Florent Dunoyer, la SCIC Diwat et Cigale du Diwa par Jean-Baptiste Boyer, Thomas Glatt pour l'Avant-Poste, Pierre Forêt pour la Nef, accompagné de Camille et Pascal Caron, présidente du réseau des accorderies de France. Plusieurs questions abordées. Qu'est-ce que la finance solidaire? Comment ça marche et à quoi ça sert? Ainsi, les intervenants, forts de leur expérience dans l'économie solidaire pour leur entreprise, répondaient aux questions de la vingtaine de personnes souhaitant être éclairées sur cet aspect de mode économique.
Bonsoir à tous, donc moi c'est Sylvain de Village Vivant, c'est moi qui vais animer cette soirée, puis je présenterai tous les intervenants juste après. Je repose le cadre, donc on fait une soirée sur les finances solidaires, l'actionnariat citoyen, l'actionnariat solidaire, on va essayer de définir un peu ces termes. Mais avant ça, cette table ronde, elle s'inscrit dans un événement national pour faire la promotion de cet outil en faveur de solidarité, en faveur de la transition écologique, la transition citoyenne. Comme tous les acteurs en France qui se mobilisent, c'est pour promouvoir ce secteur. On va le promouvoir dans sa globalité, expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et puis, comme on est dans un territoire très dynamique, on va parler des structures qui, ici, se servent des finances solidaires et ont des activités dans ce domaine-là. Donc ce soir, pour en parler, Thomas Glatt de la SIC L'Avant-Poste, Florent Dunoyer de la SIC La Carline, Jean-Baptiste de Diwat, Pascal de l'accorderie, Joël de l'accorderie également, Camille Kiri et Pierre Forêt. Quelques mots pour placer ce que c'est ce terme de finance solidaire. Ce sont des pratiques financières qui existent depuis des siècles. On peut les dater de la révolution industrielle ou des banques coopératives pour essayer d'utiliser les systèmes financiers en faveur d'une société plus juste. En gros, c'est des mécanismes financiers qui veulent travailler pour une société plus solidaire et qu'on retrouve dans une famille qui est plus grande et plus connue, qui est la famille de l'économie sociale et solidaire, qui réunit tous ces acteurs qui s'inscrivent un peu en rupture avec l'économie capitaliste, avec des principes de démocratie, des principes de transparence, des principes d'activité qui doivent être positifs pour la société. Ça prend des formes très différentes. On a beaucoup parlé d'une pratique dans les pays en voie de développement, au Bangladesh ou en Afrique, avec la microfinance, qui est une forme de finance solidaire. Là, on va parler de nos pratiques ici en Europe, en France, à travers différents types d'institutions. Dans le tour de table, vous allez voir, on a une banque, on a une association et on a des sociétés commerciales coopératives. Bon, déjà, en négatif, qu'est-ce que ça n'est pas ? Les finances solidaires, ce n'est pas les banques classiques, les banques multinationales qui jouent en bourse et qui sont acteurs de cette économie mondiale avec les cotes du CAC 40 et autres. Donc c'est une alternative aux banques conventionnelles. Ça n'est pas non plus tout ce pan associatif qui fonctionne avec essentiellement du bénévolat et du don. Il y a des connexions qui sont faites avec cette branche-là de l'économie sociale et solidaire. Mais là, quand on parle de finances solidaires, on parle plutôt d'argent qu'on emprunte, qu'on lève auprès de citoyens ou de banques et qu'on investit dans des entreprises qui ont des buts sociaux. Donc, c'est déjà une manière en négatif de dire ce que ça n'est pas. Et ce que c'est, donc c'est les finances solidaires, c'est des fonds donc, qu'on mobilise auprès donc, soit de citoyens, soit de banques, et qu'on prête dans un but où la mission sociale de l'entreprise, donc si on parle de logement, eh ben on va avoir des foncières de logement qui vont créer des logements pour des publics fragiles. Si on parle d'entreprises qui font du commerce, on va avoir des entreprises qui font du commerce en circuit court et sur des produits écologiques ou biologiques. Et si on parle en énergie, on est sur des entreprises qui vont produire de l'énergie renouvelable. Donc il y a toujours un lien à ce qu'on produit. Le produit qu'on fait doit être vertueux. Et puis, il y a sur la manière dont travaille l'entreprise. Là, les critères diffèrent un peu selon les acteurs qui font de la finance solidaire, mais on retrouve souvent quand même le principe de transparence. On va expliquer vraiment comment, d'où vient l'argent, comment il est utilisé et qu'est-ce qu'on fait des résultats, des bénéfices s'il y en a en fin d'exercice. C'est donc des activités où normalement on sait à quoi sert son argent. Et en ça, c'est une rupture assez forte avec les banques où la plupart du temps on place notre argent, notre épargne à la banque et finalement on ne sait pas bien, voire pas du tout, ce qu'ils font avec. Donc là, c'est une deuxième caractéristique, c'est cette notion de transparence. Aujourd'hui, pour mobiliser ces outils d'investissement solidaire, on peut le faire de différentes manières. Soit on a quand même certaines banques qui s'inscrivent dans les finances solidaires et on peut, par son livret, par son assurance vie ou par d'autres types de produits, rentrer dans ces produits de finances solidaires. On a des acteurs qui de A à Z, s'inscrivent dans les finances solidaires, on en parlera avec la NEF, et on a d'autres acteurs qui ont des pratiques différentes et qui vont avoir des produits de finances solidaires. Et comment on fait pour s'y retrouver quand on va voir son banquier qui n'est pas forcément un fleuron des finances solidaires, mais qui quand même essaye d'avoir des produits responsables, et ça peut être à travers le label Finansol. On en parlera un petit peu puisque c'est cette association, la Finansol, qui organise cette semaine nationale. Et on a amené quelques revues là, qui sont éditées par Finansol et la revue La Croix qui font un observatoire en fait, de toutes les pratiques. Donc il y a une manière, c'est par la banque, soit une banque totalement finance solidaire, soit une banque qui s'y met et qui essaye de rentrer dans ces critères-là, soit en investissant en direct dans des entreprises. Vous êtes plusieurs, je le sais, à le faire, à investir en direct dans des entreprises de votre territoire ou d'ailleurs, sans passer par votre banque. Donc vous investissez en direct dans des sociétés de votre territoire ou d'ailleurs. Et puis une autre manière moins connue, c'est à travers les plans épargne salariale, des plans d'épargne salariale. Quand vous travaillez dans des grandes entreprises, vous pouvez solliciter les gestionnaires RH pour que les plans d'épargne soient affectés à ce genre de fonds. Quelques chiffres pour dire que ce secteur qui n'est pas si connu, il peut quand même participer à faire la révolution qu'on souhaite. C'est que tous ces fonds additionnés, ils pèsent quand même 24 milliards d'euros en France. Et donc c'est un secteur qui est en pleine croissance. Il a fait une croissance de 27% sur les 2 dernières années. Donc voilà, les banques s'y mettent, les citoyens s'y mettent de plus en plus et l'association Finansol fait cette promotion. Donc là, ce soir, l'idée, c'est de se donner les moyens de mieux connaître ce secteur et tous ensemble, on peut faire cette petite révolution ou grande révolution qu'on aimerait voir dans l'économie. Je vais demander aux intervenants de se présenter à travers 2 angles. Ce que fait votre structure, quelle activité vous menez et en quoi vous vous inscrivez dans les finances. À Thomas, commencez.
Donc bonjour. Donc moi, je viens vous parler de l'Avant-Poste. Donc c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc notre mission, c'est de rénover un bâtiment qui est dans le centre-ville de Die, juste derrière la cathédrale. Notre volonté, c'est d'accueillir, de valoriser, de favoriser l'essor de projets, d'initiatives sociales et écologiques sur le territoire. Et du coup, nos activités, ça se découpe en plusieurs choses. Donc, il va y avoir des appartements, des chambres qu'on appelle d'acclimatation pour public peut-être précaire ou en tout cas pendant des moments temporaires d'accéder à un logement. Il va y avoir des espaces de travail partagés où l'idée, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de la transition écologique et sociale sur le territoire. Et il va y avoir un restaurant où l'idée, c'était d'avoir un lieu de convivialité pour faire venir des gens qui ne seraient pas venus dans ce bâtiment pour s'ils n'étaient pas locataires ou s'ils ne travaillaient pas sur le lieu, quoi. Donc l'idée, c'est que ce soit un lieu de convivialité aussi et de faire venir les gens et que les citoyens puissent profiter de ce lieu-là. Et nous, du coup, on avait besoin de sous. pour acheter le bâtiment et faire les travaux. Donc on a eu en gros une enveloppe globale à peu près d'1,5 million pour l'achat et les travaux. Et donc on s'est reposé effectivement sur des mécanismes de finances solidaires, déjà par les acteurs qui nous ont soutenus. Donc en tant qu'investisseurs, il y a trois banques qui nous ont soutenus, la NEF, la Banque Populaire et le Crédit Coop. Et en coopérative, il y a la coopérative Oasis qui finance ce genre de projet-là, Village Vivant, et après on a fait appel à de l'épargne citoyenne pour boucler voilà, l'argent dont on avait besoin. Donc le bâtiment a été acheté et il y a des travaux jusqu'à mai 2023, donc on est dans une phase de construction avant l'ouverture.
Laurent, directeur de la Carline, a dit que la Carline est une SIC. On a peut-être quelque chose de particulier qui est notre historique, puisqu'on a 30 ans et pendant 20 ans on a été une association. Donc on a fait ce pas de passer d'une économie bénévolat où l'engagement en temps, le don était fondamental, à une économie un peu différente au jour d'aujourd'hui. Notre cœur de métier, c'est la distribution de produits bio. On travaille avec une autre coopérative qui s'appelle Grapp pour développer des activités sur le territoire de la vallée de la Drôme dans cette filière alimentaire. Notre cours à la finance solidaire, il a été de plusieurs types. Transformer les adhérents historiques de l'association en sociétaires, personnes qui allaient être co-entrepreneurs du projet. Et donc ça, c'est le premier pas difficile qui est de passer d'une cotisation, qui est en fait un don annuel à « je prends des parts sociales que je peux récupérer, mais que je dois laisser un certain temps pour de la stabilité financière de la structure ». À l'époque de l'achat et de l'emménagement au 21 rue du Viaduc, le modèle économique était très très serré. Donc là, on n'arrivait pas à convaincre les banques classiques de financer une association qui se transformait en SIC. Et fort heureusement, la NEF à l'époque a joué un rôle vraiment clé et fondateur pour le projet sur notre territoire. Et on voit 10 ans après ce que c'est devenu avec 16 emplois et tout ça. Donc l'occasion pour moi de dire merci à la NEF. Et aujourd'hui, on a un nouveau projet qui est la reprise d'une ferme. Et donc on refait appel à la NEF pour financer ce projet. Et là, la NEF, est, dans la phase actuelle, devient recompétitive sur les taux d'intérêt. L'autre principal outil, ben, voilà, c'est vraiment ces parts sociales, ce capital citoyen qui peut être remboursé. Avant, dans le financement du projet, il fallait compléter l'argent qu'on arrivait à mobiliser avec la NEF, le trésor de guerre de 20 ans d'association qui était le fonds associatif. Et donc, on a fait... on est allé chercher dans nos adhérents et nos futurs sociétaires ce qu'on a appelé à l'époque des prêts sociétaires. Donc on a utilisé un outil qui s'appelle le compte courant d'associés pour qu'au-delà des parts sociales, certaines personnes puissent nous prêter un peu plus sur des durées de 3 à 5 ans. Donc assez classique finalement, parts sociales pour financer le capital du projet. Et puis, prêt sociétaire avec l'outil compte courant et surtout s'appuyer sur l'établissement financier qui était la NEF et avec qui on a toujours eu de bons liens. Voilà.
Jean-Baptiste Boyer, moi je dirige DiWatts, qui est donc une coopérative d'énergie renouvelable. Ce qu'on fait, c'est plutôt opérateur énergétique territorial. Aujourd'hui, c'est presque 150 sociétaires, en gros, autour d'un projet de transition énergétique locale et citoyenne. Sur la vallée de la Drôme. Notre métier, un, produire de l'énergie, renouvelable évidemment, et deux, aussi agir sur les autres piliers de la transition, qui vont être l'efficacité énergétique et la sobriété. Historiquement, même si on a une histoire beaucoup plus courte que la Carline, mais c'est notre activité, c'est plutôt le photovoltaïque, donc c'est peut-être par là, pour ceux qui nous connaissent, que vous avez entendu parler de nous. En gros, on a des installations solaires qui appartiennent du coup à la coopérative, sur toute la vallée de la Drôme, hein, c'est-à-dire que ça va d'une installation qui fait 30 mètres carrés sur l'école de Val-Drôme jusqu'à une installation qui fait plus de 2000 mètres carrés à Livron sur un siège industriel. Voilà. Donc c'est très très vaste comme typologie de projet. En fait, c'est aussi ça, hein, se dire que la transition énergétique sur le territoire, ça va passer par la mobilisation de tous les gisements et donc d'installations de différentes tailles. On a aussi, un peu comme assaillant, lancé un achat groupé, voilà, de kits solaires, vraiment sur vraiment du micro. Et donc on intervient aussi sur les filières bois-énergie, donc notamment en alimentant en chauffage maintenant l'espace baral dont il y a les représentants ce soir. avant-postes et puis des écoles privées aussi qu'on alimente. Et puis il y a deux aspects, hein. Si on se raccroche un peu à la finance solidaire, il y a le côté vraiment financier, donc on a besoin de beaucoup d'argent tout le temps. On passe notre temps à dépenser de l'argent, mais pour transformer des billets en panneaux solaires en gros. Donc ça c'est la première chose. Et puis après il y a aussi un vrai sujet de gouvernance collective, puisque le solaire c'est... globalement, on va dire tant qu'il n'est pas au sol sur des zones agricoles, on considère que c'est pas trop impactant, même si c'est des sujets à débat. Mais quand on fait un peu les scénarios de transition énergétique, on s'aperçoit que l'éolien, typiquement, on arrive difficilement à faire un territoire à énergie positive sans faire d'éolien. Et donc forcément, l'idée c'est que les gens soient cette partie prenante du projet, être associés aux décisions. Et donc sans lien avec la part de capital qu'ils détiennent. Voilà, c'est aussi un des grands éléments de la finance solidaire, hein, c'est un peu délier le pouvoir de décision de la... Donc nous on utilise plein d'outils, hein, des titres participatifs qui sont aussi des outils qui nous permettent... nous on a une certaine problématique, c'est qu'on fait des investissements qui durent dans le temps. Quand on met des panneaux, les temps pour se rembourser, ça peut être 12 ans, 15 ans ou plus. Et donc forcément on ne peut pas... faire une toute petite opération, puis rendre l'argent aux gens qui nous ont investi chez nous tout de suite. Et donc on a ces problématiques d'un peu de durabilité. C'est aussi ça, la transition ça va prendre du temps et puis il faut arriver à se projeter en fait. Donc on utilise un peu tout ça.
Donc moi je suis gérant de la société coopérative Village Vivant. On participe au dynamisme des territoires ruraux en achetant des bâtiments et en les louant à des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont créer ou maintenir des activités, qui vont créer du lien, maintenir du lien social dans les territoires. Et pour ce faire, on a besoin de sous, donc on lève des fonds, soit auprès d'institutions bancaires, soit auprès de l'État, soit auprès des citoyens. Et on est très attaché aussi à la transparence et à la gouvernance, à pouvoir s'impliquer dans les processus de décision. On est en progrès, mais on y travaille activement.
Pascal, alors moi je suis de la Corderie, du Pays d'Iwa. Dans ce grand ensemble de la finance solidaire, on peut se demander ce que la Corderie vient faire, puisque c'est une association qui a pour but, donc c'est un système d'échange de services, mais qui a pour but en particulier de lutter contre les précarités, de combattre l'isolement, de favoriser le développement du pouvoir d'agir. Donc à ce titre-là, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on fait partie de la finance solidaire? Alors on a une monnaie, qui est le temps. Moi, je considère que c'est une monnaie solidaire, non spéculative. Au-delà de ça, quand même, on a aussi une spécificité. D'abord, la Corderie, elle est née au Québec. Et elle est née au Québec de la finance solidaire. C'est la caisse d'économie solidaire qui finance que l'économie sociale et solidaire qui a financé la Corderie et qui la soutient encore 20 ans plus tard. Donc, c'est vraiment de la finance solidaire dans la mesure où c'est bien l'épargne des gens là-bas qui permettent à la caisse d'économie solidaire de financer des projets comme ça. Mais ça fait des petits en France. Au niveau de la Corderie du Diois, on a mis en place ce qu'on appelle le crédit solidaire cette fois-ci. Le crédit solidaire, c'est quoi? C'est un peu comme la microfinance. C'est de permettre de faire des prêts à taux zéro. Parce que de toute façon, d'abord, on n'a pas le droit de faire des taux d'intérêt dans une association. Mais au-delà de ça, ce sont des prêts à taux zéro. Des petits prêts qui permettent de dépanner des gens. Même s'il y a tout un tas de systèmes en France, il y a toujours des gens qui sont dans les trous de la raquette, comme on dit. Et donc, on a senti le besoin de mettre en place ce crédit solidaire. Il est solidaire parce que l'argent ne vient pas de n'importe où. Alors, je vais reciter encore les mêmes partenaires, puisque l'argent vient du fonds Gerbe, qui est issu de l'association La Nef. Quand on les a sollicités, a accepté de nous prêter dans un premier temps un fonds pour nous permettre de faire du crédit solidaire. Elle a transformé une bonne partie en dons, mais ça n'empêche que ce fonds nous permet de faire des petits prêts à des gens qui sont dans une urgence souvent un peu absolue. Et donc ça fait partie de la... C'est le premier pas de la finance solidaire. La finance solidaire, pour moi, ça commence par choisissez votre banque. Parce que même quand j'entends parler de certaines banques, crédit coopératif, pas de problème, banque populaire, ça commence déjà des fois à être un peu limite. Mais ne me parlez pas crédit agricole ou quoi que ce soit, parce que là, on parle de banques coopératives qui n'ont plus de nom de coopératif et qui ne font sûrement pas de la finance solidaire.
Camille, donc, de la Nef. Donc moi, je suis banquière itinérante sur la Drôme, l'Ardèche et le Vaucluse pour la Nef. On est une coopérative de finance éthique qui rayonne sur toute la France, avec un siège social qui est à Vaux-en-Velin, donc au nord de Lyon. Et puis après, des banquiers itinérants comme moi qui sont sur les territoires présents et qui viennent au contact des porteurs de projets. Qu'est-ce que ça veut dire une coopérative de banque éthique? Tout simplement, en fait, le mécanisme qu'on va utiliser, et ça, vous l'avez un peu déjà raconté, mais on va collecter en fait de l'épargne auprès d'épargnants, essentiellement des particuliers comme vous, qui vont mettre leur argent à la nef via des livrets ou via des parts sociales. Et de cet argent, alors, le livret, autant que les parts sociales sont importants pour prêter à différents niveaux, je détaillerai peut-être plus tard, mais c'est cet argent-là qui va nous permettre de prêter à des projets qu'on trouve éthiques. Alors, éthique, ça ne veut pas dire que... Aujourd'hui, on entend parler beaucoup des banques vertes, des banques, des néo-banques green. Aujourd'hui, prêter à être éthique, ça ne veut pas dire que prêter à ces projets écologiques. C'est une grosse partie, c'est 50% de nos financements, 10 watts, par exemple sur l'énergie photovoltaïque. Par contre, on va aussi prêter à des initiatives plus sociales, avec de l'insertion, avec des coopératives comme, qui ont été présentées, avec du logement social, avec des collectivités aussi qui prennent part à la transition et qui mettent en place des choses pour la transition dans leur commune. Voilà, donc il y a tout un panel. Pour le montrer, c'est aussi une valeur forte de l'ANF, c'est que on est la seule banque aujourd'hui à être transparente dans ce qu'on finance. C'est-à-dire qu'on publie chaque année l'intégralité des financements qu'on a fait avec l'épargne des particuliers, des professionnels mis chez nous. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'est-ce qu'on fait de votre argent sans spéculer, puisqu'on n'est pas sur les marchés financiers. Ce qui veut aussi dire qu'il y a ce circuit court de l'argent, c'est que l'épargne va uniquement dans ces projets-là. Rapidement, du coup, peut-être pour dire comment la finance solidaire intervient. Bon. Mais nous-mêmes, on est aussi bénéficiaires de cette finance solidaire, puisque les leviers que nous, on va utiliser pour... ça va être l'épargne, donc... pour prêter, mais également des institutionnels qui ont croit en nous. Alors aujourd'hui, il y a notamment le Fonds européen d'investissement qui est un des plus gros institutionnels qui soutient la NEF. Après, il y a pas mal de banques éthiques européennes. On fait partie de la FEBA, qui est la Fédération européenne des banques éthiques alternatives. Et puis après, ça va être toutes les parts sociales, donc tous les sociétaires qu'on a. Aujourd'hui, on en a plus de 40 000. Et donc, c'est tous ces sociétaires qui détiennent des parts à la NEF qui vont permettre l'évolution de la coopérative.
Pierre, je suis un sociétaire actif, c'est-à-dire que on a parlé de la participation tout à l'heure au niveau de l'association, enfin de la coopérative. Et en fait, on est organisé plus en bas de l'échelle, donc le sociétaire de base. Sociétaire actif, donc c'est quelqu'un qui s'implique de plus en plus dans la NEF. On signe d'ailleurs une charte d'engagement par rapport à la confidentialité et puis de ce qu'on peut faire. Si on remonte, il y a un groupe local. Donc le groupe local qu'on a ici, ça s'appelle le Val de Drôme. On se réunit assez régulièrement. On est en lien une fois par mois avec Camille, ce qui nous permet aussi de lui donner des infos de ce qu'on sent. Le groupe de local, il organise des apéros NEF, par exemple, pour les sympathisants ou les gens, pour se regrouper et parler de l'argent, l'argent en général. Moi, ce qui m'intéresse quand je suis venu à la NEF, c'est de se préoccuper de dire, mais comme vous l'avez dit, mon argent, je n'ai pas envie qu'il soit utilisé n'importe comment. Donc à partir de là, c'est avoir une réflexion globale autour de ça. Et la NEF est un outil, puisqu'on l'a bien vu, des différentes réponses qu'il peut y avoir dans ça. Après, si on remonte un peu, il y a un regroupement des groupes locaux. Il y a des représentants de toute la France, parce que la NEF, c'est sur toute la France, même si la région Rhône-Alpes est bien représentée. Et donc, on remonte un peu les problématiques du terrain. Il y a un comité de surveillance dans lequel il y a un comité d'éthique aussi, où il y a des sociétaires qui sont présents. Donc ça, c'est en termes de gouvernance pour... en fait, nous, notre job, c'est de garder l'esprit de la NEF par rapport à un établissement financier qui grossit, qui va passer peut-être des étapes un peu plus grandes dans le cadre de l'offre bancaire, et automatiquement être en devoir... de répondre à des obligations et peut-être même à des paradoxes que ne voudrait pas avoir une coopérative dans ce grand monde de la finance. Mais si elle veut grandir, elle doit y souscrire. Et nous, notre rôle de sociétaire actif, il est de faire le pendant entre le projet coopératif tel qu'on l'a dit là et la réalité bancaire. Un peu, je crois que c'est ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que moi, on peut me toucher. Vous pouvez y aller. Je représente donc la NEF parce qu'il n'y a pas de guichet, il n'y a pas ça. Et pour depuis 10 ans faire plein de festivals, des choses comme ça, Alternativa sur Grenoble, on s'aperçoit que les gens, ils sont très intéressés par rencontrer un peu les sociétaires. Et en fait, quand on les emmène voir des situations, moi j'étais et là, les gens sont très émus parce que mon argent, elle sert à ça, tu vois. Et ça, c'est... Enfin, moi, à chaque fois que j'en parle, ça me touche parce qu'il y a des projets extraordinaires. Enfin, et les gens sont très, très, très sensibles. Et sur des foires, il y a des gens qui arrivaient et disaient « Mais prends mon argent, quoi. Je veux plus qu'elle serve à n'importe quoi. Prends-le. »
Je parle en dernier parce que j'ai connu les premières cigales et la première association NEF. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui n'a jamais changé. Il y a toujours des projets qui ont besoin d'argent et des gens qui ont de l'argent et qu'on leur demande de mettre plutôt auprès des banques. Et comme il faut garder l'argent en sécurité, on ne va pas les présenter aux projets parce que les projets sont à risque. Et donc il y a tout un tas de systèmes qui ont été inventés où on se passait de l'argent, on se prêtait de l'argent. Au début, dans les périodes des colonies, on envoyait des bateaux et c'était les habitants des ports qui payaient l'armateur pour pouvoir partir. Donc l'argent, il vient quand même des gens, il vient pas des banques. Ce qui s'est passé depuis quand même une quarantaine d'années, en fait, c'est que les banques se sont devenues une finance organisée comme un secteur industriel. La banque fonctionne pour elle-même, alors qu'avant, une banque fonctionnait pour financer les projets, l'économie. Et si on veut être capable de passer à autre chose, il faut savoir qu'on a beaucoup de contraintes en France, pas seulement en France, en Europe. Vous en avez souvent des tas de jargons, mais il y a plein d'obligations pour protéger les épargnants, mais aussi pour protéger le système bancaire. Et le système bancaire se protège très bien, c'est fait ça très bien, mais il ne protège pas tellement ni les épargnants ni les emprunteurs. Quand vous avez un projet qui est intéressant pour les gens, il est rarement dans les clous. Toute innovation, de toute façon, elle n'existe pas avant, puisque justement, c'est de l'innovation. J'ai fait partie d'aventures des accorderies, passé du temps avec la Nef, passé du temps aussi avec Énergie Partagée, avec Terre de Liens, tout un tas de projets qui à chaque fois étaient menés pour la même raison. Des gens se sont organisés pour créer une cagnotte qui soit réglementaire avec les obligations bancaires. C'est pour ça que vous entendez des sujets, enfin des obligations, des parts convertibles, etc. C'est juste de la cuisine. Mais c'est une cuisine sans laquelle on ne peut pas manger. Parce qu'il faut la transformer, cet argent. Donc, ce qu'il faut vraiment se poser comme question, et c'est ce que moi, j'avais fini par faire quand j'avais fait une recherche là-dessus en 85, c'était de dire, en fait, j'ai constaté, moi, que dans une dizaine de projets que j'avais repérés un petit peu sur l'ensemble de la France, on avait à chaque fois les mêmes ingrédients qui fonctionnaient. Un projet qui voulait démarrer et puis qui ne trouvait pas le financement. Et puis, il y avait les gens qui se mobilisaient autour du projet en disant on va t'aider. Et je ne vous donnerai pas de détails, mais on vient d'en entendre quelques-uns. C'était dans les années 80, et la loi de 84, hein, de mémoire, pour les banques qui a fermé tout ça. Avant, on pouvait encore s'organiser, puis tout ça, c'est devenu un petit peu fermé. Alors, on met la sauce sur la législation et sur la sécurité des financiers et des épargnants. Mais les épargnants, ce qu'ils veulent, c'est que leur argent, ils servent à quelque chose. Donc, on ne parle pas de spéculation ici, mais quand vous avez fait le tour des possibilités de placement, surtout dans la période dans laquelle on est, où il n'y a pas de rendement, ou quasiment pas d'épargne, on est beaucoup plus intéressé à quoi ça sert que où c'est. Voilà. Et donc, je trouve très intéressant que dans un endroit comme ici, qui est un petit pays, le Diwa, il y ait autant d'intérêts de ce genre. Et ce n'est pas par hasard si... des boîtes comme Village Vivant ou bien
Terre de Liens.
Terre de Liens sont nés dans la région, quoi. Il y a une bande de... comment j'appellerais ça ?
Vas-y, lâche-toi.
des gens qui sont un petit peu réticents à laisser faire la banque et qui ont toujours trouvé des solutions pour mettre de l'argent là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. On vient de parler de quelques milliards tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il y a 40 ans, on parlait de quelques millions. On était très fiers déjà. Mais en fait, ce qui a changé, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à en parler. Et c'est intéressant que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui pour le faire.
Sur le sujet gouvernance, et l'introduire un petit peu, enfin, on parlait plutôt de la question du pouvoir et de la prise de décision, qui est aussi une des grandes différences dans la proposition des finances solidaires par rapport à l'économie classique, libérale ou les pratiques bancaires, où souvent on a une minorité d'actionnaires qui a une majorité de pouvoir de décision parce qu'ils ont, ils apportent beaucoup d'argent. Et dans la plupart des cas, il y a un indicateur de décision qui est le profit.
Nous, on est une SIC SA, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration. On a quatre catégories d'associés, mais trois principales, que sont d'un côté les producteurs, les consommateurs et les travailleurs du magasin, les épiciers. Et ces trois catégories, en nombre, elles sont très différentes. Il y a à peu près 300 sociétaires consommateurs qui ont pris des parts à la Carline, une douzaine de salariés épiciers qui ont des parts, et une trentaine de producteurs, c'est-à-dire à peu près un tiers de ceux qui nous livrent. Dans notre système de gouvernance, on a essayé de tenir compte de l'intérêt coopératif et de l'enjeu fondamental que la coopérative aille bien pour qui on est dans cette coopérative. Et du coup, les salariés, par exemple, ils sont que 12, mais ils ont 30% des droits de vote, puisque c'est leur travail, c'est leur outil de travail, c'est eux qui se lèvent tous les matins pour y aller. Les producteurs, c'est important. Pour les plus importants qui sont chez nous, ça peut représenter entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Donc les 25 fondateurs ou ceux qui ont rejoint cette catégorie-là, ils ont aussi 30%. Et le consommateur, qui est au centre de tout, hein, dans une initiative comme la nôtre, eh ben, il a aussi 30% des droits de vote, mais ils sont 300. Et on voit que ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant, qui permet effectivement de donner plus ou moins de pouvoir dans cette culture de un homme égale une voix, en fonction de l'intérêt coopératif qu'on a à ce que sa coopérative aille bien.
Une voix qui me dit, ils sont où les 10%?
C'est le collège soutien, très bien. Il y a des gens qui... Donc on a une catégorie partenaire soutien qui est un peu soit d'anciens consommateurs qui ont déménagé, qui voulaient rester, laisser leur argent dans la carline, mais qui ne peuvent pas participer à la gouvernance opérationnelle, soit des structures partenaires avec qui on travaille, et d'autres coopératives comme Village Vivant, Diwat, qu'on devrait plus appeler partenaire que soutien. Ça, c'est l'aspect de base de gouvernance. Ce qui est intéressant, c'est la phase de construction quand on va dépasser cette phase de statut, puisqu'il y a un proverbe, un adage qui dit « statut n'est pas vertu ». C'est un très bon adage. Et donc, quand on regarde trop les statuts, c'est qu'on ne va pas très bien, généralement. Donc nous, à côté des statuts, on a travaillé sur un document plutôt type cahier des charges qu'on appelle « l'essentiel du projet coopératif ». Où on va aller au-delà, on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait de notre argent, où on place notre argent, est-ce qu'on a le droit de le placer sur la partie économique, quel est le taux de marge maximum, minimum. Nos structures coopératives, c'est la démocratie en entreprise, avec ce que ça a de merveilleux, ce que ça a de difficile, et donc on apprend à faire avec ça. Donc il faut quand même qu'il y ait une organisation et une délégation du pouvoir. Donc nous, on a fait le choix d'avoir un CA qui est très fort, qui est composé de 3 producteurs, de 3 consommateurs et de 3 salariés. Et ce CA se réunit une fois par mois, un peu comme une fonction veille du travail du directeur, donc qui est moi-même, et qui va engager la structure avec ses fournisseurs, avec ses partenaires banquiers au jour le jour. Donc un directeur, il a besoin de se sentir capable d'engager sa structure, puisque tous les jours, il doit le faire. Et en même temps, il a besoin que ses sociétaires d'un niveau 2, qui sont nos co-décisionnaires dans le CA, ils puissent bien suivre l'évolution. On doit tenir compte d'une capacité temps qui est très différente. Le premier stade du pouvoir, c'est l'accès à l'information. On est dans une culture de finances solidaires dès le moment où cette question de l'argent n'est plus un tabou. On a des décennies d'engagement associatif où la question de l'argent était déconnectée de la question de la stratégie. Donc pour moi, la finance solidaire, ça commence par oser parler d'argent. Ce qu'a très bien fait Thomas en arrivant et dire, voilà, nous on a un projet, ça coûte 1,5 million. C'est énorme. Est-ce qu'il y a 30 ans, quelqu'un aurait osé donner ce chiffre comme ça, sans contexte, sans dire les mètres carrés que ça concerne Et donc, par peur de présenter un modèle économique, des chiffres, ça se transforme un peu en tabou. Et finalement, ça allait bien à tout le monde de se dire que cette question de l'argent, on la relaye, c'est trop compliqué, c'est une histoire de trésorerie. Donc la première chose pour moi, c'est dans la finance solidaire, c'est la transparence de l'information, enlever cette chape de plomb sur les valeurs de l'argent. Pour moi, c'est des grains. Ça fait 10 ans que je suis directeur de la Carline et j'arrive à gérer toute cette somme d'argent parce que pour moi, c'est plus des euros. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est des grains. Mon cœur de travail, ou si on parle de gouvernance, c'est rendre sexy cette question de l'argent et de pouvoir oser en parler, l'expliquer et de ne pas en avoir peur. Et pour parler de l'avant-poste, du coup, comme on est une SIC, effectivement, et comme vient de le dire Sylvain, un sociétaire est... à une voix, donc quel que soit le montant de part sociale ou de titre participatif qu'il a pris, ça veut dire que dès qu'un sociétaire rentre dans l'avant-poste, il a le même pouvoir que tous les autres. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, et c'est lié à la gouvernance, c'est le fait que dans la SIC, on doit produire un intérêt collectif. Donc dans les statuts, on réfléchit à, ok, mon projet, l'avant-poste, c'est quoi l'intérêt collectif qu'il va produire. Et une fois qu'on a défini cet intérêt collectif, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut mettre en place une gouvernance pour maintenir la production de cet intérêt collectif. Et donc, on arrive à réfléchir à ce qu'on appelle des catégories de sociétaires, où du coup, va y avoir, on réfléchit en gros au rapport de force. Donc par exemple, pour l'avant-poste, on va avoir des locataires, on va avoir un restaurateur, on va avoir des gens qui vont venir pour travailler sur place. Tout le monde va vivre dans ces lieux, utiliser toutes les pièces, parce qu'il y a beaucoup d'espaces partagés. Et tout le monde n'aura pas forcément les mêmes intérêts. Par exemple, le restaurateur, il voudra ouvrir très tard et utiliser le jardin un maximum. Les locataires, ils vont avoir envie d'être tranquilles le soir ou de pouvoir faire un barbecue le dimanche. Enfin, ça, c'est les cas les plus classiques, mais en tout cas, c'est les cas dont on a parlé. Et donc, on réfléchit à des catégories de sociétaires dans lesquelles chaque sociétaire va rentrer. Et dès qu'il y aura une décision à prendre, eh bien, ce sera au sein de chaque catégorie de sociétaires que ce vote sera fait. Et ça permet un peu, et ce système d'avoir des catégories, ça permet de maintenir le rapport de force tout en ayant à l'esprit que collectivement, on veut produire le même intérêt collectif.
Cette idée que, en fait, notamment la démocratie en entreprise, finalement, c'est aussi un levier pour agir, quoi. C'est-à-dire que la finance solidaire, et je veux dire, encore quand on est directement sur les projets d'entreprise, en fait, ça vient aussi nous confronter entre le concept et la mise en action et les contraintes, quoi. C'est-à-dire que, typiquement, que ça fait partie de la transparence et de l'information, mais nous, il se trouve qu'on a une filiale du Crédit Agricole qui est au capital de Diwatt, qui est sociétaire chez nous. Personne chez nous s'est dit oh, « chouette, ça y est, c'est le Crédit Agricole, elle vient nous voir, c'est vraiment super, c'est exactement eux qu'on attendait pour faire notre projet ». Mais en fait, il y avait plein de choses derrière, de contraintes, de choix, de qu'est-ce qu'on poursuit comme projet, est-ce qu'on arrive à faire sans eux, pourquoi on accepte, pourquoi on refuse. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'aller sur ces débats internes dans les coopératives et d'avoir justement la place pour le faire. C'est-à-dire que nous, par exemple, c'était une session avec des sondages, des webinaires pour expliquer le pourquoi du projet avec d'autres acteurs. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était le Crédit Agricole, mais c'était Énergie Partagée, c'était la Caisse des dépôts. Donc voilà, ces différents acteurs, et donc un peu recueillir, expliquer pourquoi directoire, qu'est-ce que ça nous permettait de faire, et puis recueillir aussi toutes les réticences qu'il pouvait y avoir, quoi. Ça prend du temps, beaucoup. Par contre, je pense que derrière, c'est aussi une appropriation assez forte par tous les sociétaires du choix qui est finalement, du choix qui est fait, signé par certains, mais au final, il est endossé par tout le monde, j'ai l'impression. Et on est dans les cycles, les seules structures qui poursuivent un intérêt qui dépasse l'intérêt des sociétaires ou des associés dans les entreprises. Et dans les SIC, on va vraiment chercher autre chose aussi, et c'est aussi ça, ce levier d'agir, c'est qu'on se met ensemble pour produire quelque chose qui nous intéresse là tout de suite, mais aussi qui va dépasser ça, quoi. Et forcément, on va rentrer dans un champ économique, économique au sens large, hein, pas que financier, et c'est ça qui va être intéressant et qui, je pense aussi, peut avoir de l'impact sur les esprits et les mentalités. C'est qu'en fait, on sort du dogme ou du concept qu'on peut tranquillement poser chez soi et que personne ne vient remettre en cause, mais aussi venir se confronter à toutes les contraintes, ça permet aussi juste de changer aussi ce qu'on pense. Enfin, voilà. Et des fois, on ne change pas, et ce n'est pas grave, ça peut être très bien, mais c'est l'exercice de la pensée est assez intéressant.
Donc là, on va regarder de ces côtés, de ces mécanismes donc plus complexes, celui de l'intermédiation bancaire telle que la NEF la pratique. Et donc, en revenant, vous en avez déjà dit un petit mot, mais sur comment vous organisez la transparence et la gouvernance du point de vue d'une banque qui gère.
Sur la transparence, l'idée, c'est qu'en fait, vraiment, chaque année, on va, pour la transparence, c'est qu'on va faire la liste, mais vraiment très exhaustive, de tout ce qu'on fait avec l'argent. Et puis après, on a le site internet où vous pouvez aller retrouver la structure qu'on a financée. Donc vraiment, l'idée, c'est que n'importe qui puisse venir nous voir, souvent en assemblée générale aussi, par exemple, et nous dire ce prêt-là, pourquoi ? je suis pas d'accord, tout le monde peut avoir son avis. Il y a des fois des sujets où est-ce que l'éthique, c'est un sujet quand même qui est, il y a une interprétation aussi assez relative, même si on essaye d'avoir des carcans, des règles générales. Mais voilà, chacun peut avoir son interprétation de qu'est-ce que c'est éthique et donc peut aussi nous solliciter sur chaque année à notre assemblée générale, expliquez-nous pourquoi vous avez financé ce projet. Sur la gouvernance, on est une coopérative aussi. Alors des coopératives bancaires, on n'est pas la seule, hein. Il y en a plusieurs qui existent en France. Je pense qu'il y a assez de publicité pour ne pas les nommer. Sur le fonctionnement qui nous diffère quand même de ces coopératives-là, c'est que du coup, chaque sociétaire vous l'avez dit avant, va avoir la même voix. C'est-à-dire que je prends l'exemple, parce que c'est public, la Banque Alternative Suisse qui nous met 2 millions d'euros de parts sociales l'année dernière à la nef, elle a une voix, comme... Pierre, je ne sais pas combien de parts sociales il a, mais il a la même voix que la Banque Alternative Suisse à notre Assemblée Générale chaque année. Et après, effectivement, la gouvernance donc, se fige un peu chaque année au moment de l'Assemblée Générale, parce que c'est un peu le moment fédérateur. Mais l'idée, c'est que cette gouvernance, elle vive tout au long de l'année, avec les sociétaires actifs sur le terrain et avec du coup des regroupements, parce que on va pas être isolé chacun de notre côté. Sociétaires actifs, on reçoit un rapport annuel, on nous dit de valider des clauses A, B, C. Mais non, nous, on veut vraiment que ce soit clair, que ce soit compréhensible. Donc, on va faire des formations toute année. On a vraiment une cellule vie coopérative, des deux personnes à la nef. Alors, mais pour donner un ordre d'idée, donc deux personnes qui font ça. Tous les jours. C'est-à-dire, elles vont vraiment animer la vie coopérative, apporter de la formation, apporter de l'explication, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, où on va. Et donc, ça va se décliner par des formations, par l'animation locale aussi, parce que les apéros nef, on s'appuie, par exemple, pour en organiser un, ben on va s'appuyer sur elles, on va aussi avoir des pouvoirs d'agir aussi, bien sûr, mais donc c'est vraiment comment la gouvernance. Alors, on a un directoire qui, comme l'expliquait Florent avant, qui met en pratique aussi ses ambitions des sociétaires. Donc, un directoire à deux personnes, avec un président et un directeur général. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une information continue tout au long de l'année, localement, dans toute la France, et aussi un peu plus nationale, enfin, de manière plus regroupée au moment de l'Assemblée générale.
C'est très dur de gérer une SIC. Dès que vous avez le greffe du tribunal, de téléphone...
Il ne comprend pas.
Voilà, ça reste un enfer. Il y a besoin de SIC dans tous les domaines qui vont toucher l'humanité et les relations humaines, la production, du logement, de l'énergie. On est tous des structures différentes qui, par nature, n'avons pas besoin de l'argent au même endroit, de la gouvernance au même endroit. Ce qu'on peut se féliciter, c'est que ça, c'est contagieux, ça touche plusieurs domaines. Je pense qu'il y a 15 ans de ça, se dire qu'il y aurait une SIC ADI sur de l'autoconsommation d'énergie, enfin, tout le monde se serait bien marré en disant mais c'est beaucoup trop petit, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'utilité à faire ça et tout ça. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de SIC? Bah, évidemment, le logement, c'est un point clé. La santé, c'est un point clé. Il y a très peu d'initiatives de maisons de santé sous forme de SIC.
De maisons de retraite, là, il y a pas mal de projets qui se montrent.
Il y a des projets fous, hein, comme des transports de marchandises à la voile pour importer du café. Enfin, voilà, on a besoin de projets fous. C'est revendiquer une part d'utopie. Je crois que tu cherchais à dire ça. Moi, j'ai cette phrase qui est de dire, dans nos projets, on ne doit pas avoir peur de définir des utopies et charge à nous d'organiser les compromis. Oui, il y a encore plein de territoires d'action et c'est pour ça que c'est hyper important que les gens, qu'il y ait une forme d'éducation à qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent. Et c'est vrai que même nous, si on a essayé de simplifier, de ne pas trop parler d'outils financiers, très vite, j'ai parlé de prêts sociétaires, tu as parlé de titres participatifs, de comptes courants, où c'est un peu de ma faute. Ce qui manque, et cette culture de qu'est-ce que je peux faire avec l'argent, ça, c'est quelque chose qui manque pour que quand on est seul, qu'on sache choisir sa banque, qu'on sache manager son épargne, de dire bah là, je suis prêt à ne pas le réclamer pendant 5 ans, je suis prêt à en perdre la moitié sur cette partie, mais pas sur cette partie. Le reste, je le laisse à la nef parce qu'il y a des systèmes de garantie. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu fondamental avec la transition dont on a besoin, la gestion des communs, puisque la SIC, c'est le statut des communs. Si vous pouvez repartir avec quelque chose ce soir, c'est ça. C'est-à-dire, oui, on cotise tous, on place tous un peu d'argent, et il y a une démocratie qui va faire qu'on va gérer des intérêts qui sont contradictoires. La notion d'intérêt collectif, super important, c'est pas la somme des intérêts de tout le monde. C'est malheureusement, l'intérêt collectif, à des moments, il va contre l'intérêt d'une partie des membres. Et donc, il y a toute cette... cette culture, ce choc, et dont on a absolument besoin dans la transition, d'une meilleure culture, d'une meilleure éducation à l'argent, ce pouvoir d'agir qui est quand même merveilleux. On vit une pleine crise depuis cette période de Covid. Il n'y a jamais eu autant d'épargne en France. Alors bien sûr, il n'y a jamais eu autant d'inégalités de revenus. Il y a 10 à 15% de notre population qui est sous le seuil de pauvreté. N'empêche qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur les livrets A. Et maintenant, il faut que à l'école, il y ait des cours d'économie. Je le dis à chaque fois, il faut que les gamins ils apprennent à créer une entreprise, à gérer une trésorerie et pas juste à jouer à la caissière.
Les sociétaires et le directoire ou les organes comme ça, on va choisir à qui on prête. Et c'est de l'argent que vous nous confiez. Donc on va être très exigeant sur savoir d'où ça vient et à qui on va le prêter. Alors, il y a des choses qui sont extrêmement sensibles dans une banque par rapport à la confidentialité. Et nous, il faut, en tant que ce secteur actif, on est parfois au courant de choses que ne sont pas au courant n'importe qui. Donc on disait tout à l'heure, c'est ce devoir de confidentialité. Parce que c'est aussi les enjeux aussi d'une structure au cœur d'un milieu bancaire qui est extrêmement... S'il n'y avait pas eu l'organe de la CPR européenne pour la capacité de la NEF de devenir un établissement financier, de lancer les comptes associatifs, et peut-être... C'est grâce à cet organe européen, parce que la France... l'organe des grosses banques françaises ne veulent pas, c'est eux qui font l'appui et le beau temps pour savoir ce qui peut se créer une banque ou pas.
Ce qui est passionnant dans nos entreprises, c'est d'inventer des mini-démocraties avec des choix qui sont assez différents. Certains vont créer des groupes de travail, des commissions qui vont statuer sur quel projet on finance, quels sont nos critères d'admission des nouveaux sociétaires ou plein d'autres sujets. D'autres vont créer des réseaux nationaux qui vont s'appuyer sur des entités locales avec des gouvernances plus ou moins autonomes. Bref, on ne va pas faire le catalogue de toutes ces mini-démocraties, mais c'est un des sujets vraiment aussi passionnants qui fait que c'est plus compliqué, mais je crois que c'est ce défi qui nous intéresse, gérer des entreprises pérennes. Et en même temps poursuivre des objectifs sociaux ou écologiques justes toute l'année ou à des moments réguliers, on peut participer à la construction et c'est ce que s'attache à défendre pour éviter ce qu'on appelle, il me semble, le glissement coopératif. Avec le changement d'échelle, en fait, la coopérative devient tellement grande, orientée sur la rentabilité, la pérennité de la structure et plus forcément sa mission première de faire de l'intermédiation entre l'épargnant et le projet qui a du besoin. Elle devient tellement grande que le lien entre la personne qui est censée avoir du pouvoir, donc le sociétaire, une personne, une voix, et les vrais lieux de décision sont tellement loin que finalement, on a plus, au bout d'un moment, on peut avoir plus que le statut de coopérative et plus la pratique quotidienne de vraie démocratie.
Je voulais juste préciser, parce qu'effectivement, j'ai pensé à la gouvernance NEF. La NEF, on existe depuis plus de 30 ans. Avant ça, on était effectivement sous format associatif au tout début. Depuis 30 ans, la NEF, les règles financières bancaires font qu'on ne peut pas être autonome en tant que banque aujourd'hui sur le marché français. On est trop petit. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, il y a vraiment... quand on remonte toutes les têtes de réseau, il y a 6 établissements bancaires en France uniquement.
Il y a un mouvement national dont vous avez peut-être entendu parler, qui est celui des licornes avec 2 O, qui permet à tous ces acteurs qui ont déjà une certaine taille, mais de faire front commun pour vraiment être connus du grand public et sortir des champs, des initiés, des personnes qui sont... Donc dans ces licornes, vous avez Enercop. Vous avez Raikop, je vais avoir besoin d'aide parce que je ne les connais pas toutes. Vous avez un acteur de téléphonie, vous pouvez avoir un Télécop. Vous avez qui d'autre ? La NEF. Mobicop. Et du coup, ils essayent de faire vraiment une communication commune, lever des fonds ensemble pour déployer toutes leurs activités et sortir des marges. C'est qu'on est sur des sujets tellement complexes avec des défis vraiment d'envergure et des contraintes réglementaires ou techniques. Donc bien souvent, pour réaliser nos métiers et remplir nos missions sociales, on fait des alliances. Et ça fait partie de la culture de nos entreprises de l'ESS, de travailler en partenariat. Est-ce que peut-être tu allais commencer à parler des histoires d'alliances de la NEF et si d'autres veulent illustrer de comment On essaye d'avoir cette intelligence pour relever nos défis.
On est adossé depuis plus de 30 ans au crédit coopératif. Ça, c'est la réglementation bancaire française qui fait qu'on n'a pas le choix, très clairement. Aujourd'hui, je vous disais, il y a 6 établissements bancaires en France. La Nef va être le 7e. Donc, on a lancé une grande campagne qui s'appelle le Big Bank pour lever. Notre ambition, c'est de lever 30 millions d'euros de parts sociales pour qu'on puisse avoir justement un argument de poids auprès de l'ACPR, donc l'autorité des contrôles des marchés, donc l'équivalent de la Banque de France, qui dicte toutes ces règles. Et donc qui, aujourd'hui, depuis le 30 juin de cette année, on a déposé un dossier pour justement être indépendant. Donc il y a des alliances, effectivement. Après, aujourd'hui, il y a aussi... on est très heureux que le Crédit Coopératif nous ait aidés à nous accompagner pendant 30 ans. Sans eux, on n'aurait peut-être pas existé. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment de développer ce lobbying français auprès des autorités. Tous ensemble, on est plus forts. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire connaître toutes nos structures de manière plus intense. En tout cas.
Deux indicateurs, enfin deux aides à la décision sur comment déceler le greenwashing de la vraie pratique qui se veut éthique et transparente, c'est, je dirais, le label Finansol. Donc, ça veut dire que dans ces produits, vous n'allez pas retrouver, par exemple, des investissements dans Total qui peuvent par ailleurs être labellisés green parce que ISR, investissement socialement responsable, c'est un autre nom pour les finances solidaires. Les produits Finansol respectent une grille qui est quand même assez stricte. Ensuite, l'autre manière pour avoir vraiment... toute la cohérence, c'est d'investir en direct dans des structures qui ont et la pratique et la transparence.
Et je pense que ce qui m'embête un peu dans ces labels Finansol sur des grandes banques dont on sait qu'elles ont des... Il n'y a qu'à lire les rapports, hein, c'est assez édifiant quand même. La BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, c'est une catastrophe totale. Alors, quand on est dans des structures comme la Nef ou dans des SIC, ou là, quand même, a priori, alors surtout sur un territoire, c'est vraiment intéressant de financer son propre territoire de vie. Mais attention, quand on, là où on met notre argent, eh bien oui, on pose un geste citoyen. Et même quand on dit, si, juste le fait d'avoir un compte, même pas un livret A, juste le fait d'avoir un compte, c'est un geste citoyen. Et si vous le mettez dans n'importe quelle banque, eh bien, vous soutenez ce que fait la banque en général. Alors effectivement, on va vous dire, oui, mais ma petite agence locale, ben non, mais votre petite agence locale, elle fait partie d'un grand tout. Et ce grand tout, il est là pour...
J'ai juste une préoccupation. Quand on parle du rendement, les gens disent qu'il vaut mieux mettre son épargne en sécurité et que sinon l'investir dans des projets, c'est risqué. Et je me souviens avoir fait une étude récemment. Il y avait à peu près 10 ou 15% d'épargne qui ne bougeait jamais. Si vous mettiez cette épargne-là dans des projets qui vont garder 10 ans, auprès de gens aussi respectables que c'est ceux qui donnent des comptes à chaque fois, vous savez que vous ne risquez rien. Sauf peut-être d'améliorer votre vie, de pouvoir aller faire de l'épicerie, d'avoir de l'électricité. Et le meilleur rendement que l'on peut avoir de l'argent, c'est son utilité. Quand on a un peu d'épargne, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Alors la bonne question, c'est... qu'est-ce qu'on veut faire avec cette épargne? Où est la sécurité? Où est la partie contribuer à la vie locale, à la vie nationale, à la vie internationale? Parce que c'est à quoi sert l'argent, la bonne question. Alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est une question de culture. Mais justement, c'est ça qui est en train de changer. On est beaucoup plus nombreux à en parler qu'avant. À la Nef, nous avons largement grandi et agrandi au point de gêner les autres. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour au Québec, quand on met un paquet de café équitable sur une rangée, et la première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les autres ne le sont pas. Et c'est tout d'un coup parce que la Nef existe, la Nef et d'autres existent, et qui commencent à montrer qu'on peut faire du placement sécurisé, rentable et honorable. On a quelque chose, mettre de l'argent dans les mines d'or... qui bousille l'écologie de la vie amazonienne et les gens. Il n'y a pas grand monde qui a envie d'être complice de ça. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ils ne sont pas dans nos amis, ceux-là. Mais par contre, il faut quand même qu'on ait conscience que cette mauvaise épargne, ce mauvais usage de l'argent, c'est un mauvais usage de la planète, de tous les enjeux que l'on a. Alors, quand après, on dit comment on peut convaincre quelqu'un d'avoir son épargne, bien, moi j'ai envie de dire, qu'on le convainque d'abord de garder ce qui est important pour lui et de le placer là où il faut. Le logement, on en a parlé tout à l'heure, c'est un investissement que tous les Français, beaucoup d'Européens ont choisi d'avoir. Mais une fois que ça c'est fait, on ne peut pas changer de voiture tous les ans, quoi. Ou alors on peut, mais il faut savoir que c'est au détriment du reste. Donc en fait, le bon sens, c'est encore la meilleure façon. Quand moi j'ai vu des dossiers, des projets dans les années 80 qui expliquaient ce qu'ils avaient fait, ils expliquaient comment ils avaient convaincu les gens de leur milieu local, de mettre l'argent dans le projet. Et j'ai le souvenir, puis je vous laisserai avec ça, d'une zone industrielle chez un breton, un maire breton, et de droite, parce qu'il n'y a que la droite qui était à l'aise à l'époque avec l'argent, qui a dit, moi, pour convaincre le boucher, je lui ai dit, si on n'a pas de boulot, il n'y aura plus d'argent, les gens vont vieillir, mangeront plus de viande. Alors, c'est ton intérêt de mettre l'argent dans le projet. Mais c'est justement un circuit court qui montre que ce n'est pas juste complètement éthéré. Il y a une réalité.
Là-dessus, je vais vous remercier. Je vais vous citer les gens qui ont participé à l'organisation de la journée. Flori, Dorine, Pierre, Camille, Joël, Pascal, Thomas, Florent, Jean-Baptiste, Yves et les bénévoles de l'accorderie. Je ne vous connais pas tous. Non, les accordeurs. Oui, pardon. Et vous remercie à tous d'être venus si nombreux. On a un petit peu débordé l'horaire. Et encore, merci à tous. You tripped on a box that he shipped before he committed himself to the war. I was at work and believed you were hurt till I saw that dirt from a hole in the yarn. I was deceived that day we received.